aujourd'hui Jean-Roger Lyon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 26 juin 2024. Au Kenya, le président retire le projet de budget à l'origine de manifestations meurtrières. En RDC, deux soldats sud-africains ont été tués et 20 autres blessés dans l'attaque de leur base dans l'est du pays. La CPI condamne Alassane Ouattara Abdelaziz, un chef de police islamique, pour crime de guerre au Mali. Le premier débat de l'élection présidentielle américaine de 2024 entre Donald Trump et Joe Biden aura lieu demain jeudi à Atlanta, en Géorgie.
Inflation is raging, crime is out of control.
Trump is trying to make the country forget just how dark and unsettling things were when he was president. We'll never forget.
Nous aurons en ligne dans un instant Alessandrino Lugnon, envoyé spécial. L'OTAN désigne Mark Rutte au poste de secrétaire général. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Kenya, le président William Ruto a annoncé ce mercredi le retrait du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses d'impôts, un projet qui a été à l'origine d'une puissante contestation dans le pays qui a sombré mardi dans une violence meurtrière. Mouamadou Mfa.
Le peuple a parlé après avoir écouté attentivement le peuple kenyan qui a dit haut et fort qu'il ne voulait rien avoir avec ce projet de loi de finances 2024. Je m'incline et je ne promulguerai pas le projet de loi de finances qui sera par conséquence retiré, a déclaré William Ruto. Dans un discours prononcé à la présidence, il a appelé à une concertation nationale avec la jeunesse. Puisque nous nous sommes débarrassés du projet de loi de finances 2024, il est nécessaire d'avoir une conversation en tant que nation à l'avenir. Comment gérer ensemble notre situation d'endettement? Je proposerai un engagement avec les jeunes de notre nation, nos fils et nos filles, a annoncé M. Ruto. C'est une opération de com, a immédiatement réagi sur X, et une des figures de la contestation, Hanifa Adan. Le projet de loi est retiré, mais allez-vous rendre la vie à tous ceux qui sont morts, a également écrit cette journaliste et militante qui avait plus tôt dans la journée appelé à une marche blanche pacifique jeudi à la mémoire des victimes. N'oubliez pas, ne pardonnez pas, a-t-elle ajouté. À Nairobi, l'annonce du vote du texte mardi par le Parlement, où le parti présidentiel Kenya Kwanza est majoritaire, avait déclenché la colère des manifestants réunis non loin. La répression de la mobilisation contre ce projet a fait au moins 22 morts, selon l'organe officiel de protection des droits humains.
Au Congo-Brazzaville, le Centre d'action pour le développement, une ONG des droits humains, a déploré ce mercredi, dans un rapport, l'augmentation des cas de torture dans le pays, passé selon elle de 13 durant les 4 premiers mois de 2023 à 122 pendant la même période de 2024. La situation est extrêmement préoccupante, a déclaré Trésor Nzila, le directeur exécutif du CAD, en commentant le rapport devant la presse aujourd'hui. En République démocratique du Congo, deux soldats sud-africains ont été tués et 20 autres ont été blessés dans une attaque au mortier contre une base dans l'est du pays, selon un communiqué de l'armée sud-africaine. Les détails avec Yakuba Oudraogo.
D'après l'armée sud-africaine, une base militaire à Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été visée hier par une attaque. Elle a précisé que la procédure de rapatriement des dépouilles des deux soldats tués a été lancée. L'Afrique du Sud a déployé 2900 soldats dans l'est de la RDC à la mi-décembre dans le cadre d'une force régionale d'Afrique australe, comprenant aussi des militaires du Malawi et de la Tanzanie. Cette force est chargée d'aider les forces gouvernementales de la RDC à lutter contre les rebelles du M23. Un autre soldat sud-africain avait été tué fin mai lors d'affrontements à Sake. Au total, 5 soldats sud-africains ont été tués depuis le début du déploiement. 3 soldats tanzaniens de cette force avaient été tués début avril dans le même secteur par un tir de mortier. Le Nord Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23 à l'armée congolaise, associé à des groupes armés dits patriotes.
Au Niger, une embuscade tendue par un groupe terroriste a tué 21 soldats près de la frontière avec le Burkina. Mardi, a déclaré la junte militaire au pouvoir dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le communiqué publié ne précise pas quel groupe est à l'origine de l'attaque. La semaine dernière, les rebelles du Front patriotique de libération ont attaqué un oléoduc transportant du pétrole au Bénin. La Cour pénale internationale a condamné aujourd'hui un chef de la police islamique djihadiste pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la ville sanctuaire malienne de Tombouctou en 2012 et 2013. Rosine Monizero.
Al-Hassan Ag Abdulaziz, un Malien de 46 ans, a été reconnu coupable notamment de torture et d'atteinte à la dignité de la personne pour des actes commis dans la ville, alors sous le joug djihadiste, entre avril 2012 et janvier 2013. Selon le juge Antoine Kessiambe Mindoua, il a joué un rôle clé dans la terreur qui s'est abattue sur Tombouctou en supervisant des amputations et des flagellations en tant que chef de la police islamique de la ville contrôlée par les combattants islamistes d'Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Hassan a été impliqué dans des interrogatoires où la torture a été utilisée pour obtenir des aveux, a poursuivi le juge, qui a décrit en détail le règne de la terreur sous les djihadistes à Tombouctou, évoquant notamment des arrestations et des viols. Les habitants n'avaient d'autre choix que d'adapter leur vie et leur mode de vie pour se conformer à l'interprétation de la charia islamique qui leur était imposée par la force des armes, a souligné le juge, ajoutant que la sentence retenue contre Al-Hassan sera rendue publique sous peu.
Les camps des deux généraux rivaux qui s'affrontent au Soudan utilisent la faim comme arme de guerre, ont affirmé aujourd'hui des experts de l'ONU, ajoutant que les gouvernements étrangers qui les aident sont complices de crimes de guerre. La guerre au Soudan fait rage depuis avril 2023 entre l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide dirigées par son ancien adjoint Mohamed Abdan Daglou.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, les candidats à l'élection présidentielle américaine, Joe Biden et Donald Trump, se rencontrent demain jeudi pour leur premier débat télévisé. Ce débat organisé par CNN se tiendra à Atlanta, en Géorgie. Les préparatifs vont bon train, comme nous le dit notre envoyé spécial Alexandrine Ollognon. Bonsoir Alexandrine.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, nous sommes à la veille de ce premier débat présidentiel très attendu entre le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump. L'événement est prévu se tenir demain à 21h, heure locale, dans les studios CNN sur le campus Tech Road à Midtown, ici à Atlanta. Nous avons pu accéder à certaines parties du local ce matin et de ce qu'on a pu observer, tout est presque fin prêt pour accueillir ce débat. Pour l'instant, ce ne sont que les journalistes qui s'affairent autour du bâtiment pour retirer leurs accréditations et certains pour installer leur matériel. Et selon l'équipe de CNN, près de 800 journalistes vont couvrir l'événement demain. C'est pour dire à quel point ce débat est important ici aux États-Unis. On a pu également échanger avec quelques passants qui ne semblaient pas être au courant de ce qui se passait là. Certains même demandaient dubitatif si le président et son prédécesseur seront bel et bien là demain dans ce local. Nous avons aussi regardé quelque peu ce que disent les médias locaux sur l'événement à ce stade. Et certains font notamment mention de l'impact sur la circulation dû à la présence policière dans la zone qui abrite l'événement. Voilà en bref ce que je peux dire pour l'instant sur les préparatifs de ce débat qui aura lieu ici dans la ville d'Atlanta.
Merci Alexandrine Ollognon. Les 32 pays de l'OTAN ont désigné ce mercredi le premier ministre néerlandais Mark Rutte comme prochain secrétaire général. M. Rutte, 57 ans, succédera donc à Jens Stoltenberg le 1er octobre et assumera ce rôle à un moment crucial pour l'Alliance alors que la Russie continue sa guerre en Ukraine. Le point avec Eric Manirakiza.
Mark Rutte a reçu des éloges pour son leadership transatlantique. « Je sais que je laisserai l'OTAN entre de bonnes mains », a réagi son prédécesseur Jens Stoltenberg sur X. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a souligné l'importance de son expérience pour l'Alliance en cette période difficile. La nomination de Rutte a été soutenue par les États-Unis après le retrait du président roumain Klaus Iohannis. Le Kremlin a fait savoir que cette nomination n'entraînerait aucun changement dans la ligne hostile de l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué M. Rutte comme un dirigeant fort et respectueux des principes. Mark Rutte devra composer avec la menace russe et les élections américaines de novembre. Washington représente une part majeure du poids militaire de l'OTAN.
Le fondateur de Wikileaks et lanceur d'alerte, Julian Assange, est rentré aujourd'hui en Australie, profiter de sa liberté retrouvée après un accord avec la justice américaine qui a mis fin à une saga judiciaire de près de 14 ans. Au cours d'une conférence de presse, Madame Assange, son épouse, a donc expliqué que son mari avait besoin d'intimité et de temps pour se rétablir après plus de 5 ans passé dans une prison de haute sécurité en Grande-Bretagne. La première audience dans le procès à huis clos du journaliste américain Ivan Gershkovich, détenu en Russie depuis 15 mois pour des accusations d'espionnage qu'il rejette, s'est tenue aujourd'hui dans un tribunal d'Ekaterinbourg dans l'Oural. Moscou n'a jamais étayé ses accusations contre le correspondant du Wall Street Journal et a maintenu secret le contenu du dossier de M. Gershkovich, âgé de 32 ans, qui a été interpellé, vous le savez, en mars 2023 en plein reportage par les services de sécurité russes, devenant le premier journaliste occidental depuis l'époque soviétique à être accusé d'espionnage en Russie. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La Société pétrolière nationale gabonaise a annoncé l'acquisition d'Assala Energy, dont la production quotidienne est de 45 000 barils, avec le soutien financier du groupe Gunvor. L'acquisition permettra au Gabon de renforcer son contrôle et sa souveraineté sur ses réserves de pétrole et de gaz et d'augmenter significativement ses revenus pétroliers, a déclaré la direction de la compagnie. Le gouvernement guinéen a signé un partenariat avec Alteo Alumina pour créer une école de formation au métier de l'alumine à Conakry. Le projet comprend la construction d'une raffinerie de transformation de la bauxite en alumine dans la région de Boké qui devrait créer 800 emplois. L'école formera des techniciens et ingénieurs locaux directement employables. Lomé accueille depuis lundi une rencontre des directions douanières de la sous-région sur le déploiement du système interconnecté de gestion des marchandises en transit pour le corridor Abidjan-Lagos. L'échange d'informations favorisera la sécurisation des marchandises, la lutte contre la fraude, la maîtrise des recettes fiscales et la fiabilité des données statistiques dans les États membres de la CEDEAO, selon la direction des opérations douanières de Lomé-Port.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les nouvelles de l'Euro 2024 pour commencer.
Auteur d'une prestation moyenne face à la Pologne, un but partout, malgré le retour de Kylian Mbappé, la France a terminé à la deuxième place du groupe D derrière l'Autriche qui a battu les Pays-Bas 3-2. Les Néerlandais se qualifient comme l'un des quatre meilleurs troisièmes. Dans la poule C, l'Angleterre, qualifiée avant le coup d'envoi, n'est pas parvenue à battre la Slovénie 0 but partout et termine néanmoins à la première place. Dans l'autre match de ce groupe, le Danemark s'est qualifié pour les huitièmes avec son match nul contre la Serbie 0 but partout, prenant rendez-vous avec l'Allemagne samedi à Dortmund pour les huitièmes de finale.
Ici aux États-Unis, la Copa América se poursuit, l'Argentine qualifiée pour les quarts de finale.
La tenante du titre a validé son bilan en battant le Chili 1-0 lors de la deuxième journée de la phase de groupe. Avec 6 points de rencontre, l'Argentine est assurée de disputer les quarts de finale avant la troisième journée où elle va affronter le Pérou à Miami. Toujours dans ce groupe A, le Canada a battu le Pérou 1-0 sous une forte chaleur à Kansas City et se relance après sa défaite d'entrée contre l'Argentine lors de la première sortie. Deux matchs ce soir avec les rencontres du groupe B, l'Équateur fait face à la Jamaïque et le Mexique joue contre le Venezuela. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Parlons d'athlétisme et de lutte antidopage, 600 contrôles effectués pendant le Tour de France.
L'annonce est faite par l'International Testing Agency, l'Union Cycliste Internationale, qui délègue les contrôles à cet organisme indépendant depuis 2021, a aussi annoncé un nouvel outil d'inspection contre la fraude technologique, dont les détails ne seront dévoilés qu'après le Tour de France, qui commence ce samedi pour s'achever le 21 juillet. Parmi les nouveautés, l'ITIA va intégrer un module capable d'indiquer l'utilisation de l'hormone de croissance humaine, a précisé Olivier Banuls, responsable des contrôles de l'organisme. Avant le départ du Tour de France, l'ITIA aura effectué quelques 400 contrôles hors compétition. Donc.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le premier débat de l'élection présidentielle américaine de 2024 aura lieu demain jeudi, mais ce ne sera pas la première fois que les candidats s'affronteront. La correspondante principale de VOA à Washington, Caroline Presutti, se penche sur l'année 2020 pour trouver des indices de ce que nous verrons et entendrons lors du débat entre le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump. Le récit est de Rosine Monizero.
Les deux candidats à la présidentielle de novembre s'étaient déjà rencontrés lors d'un débat en 2020. Écoutons Joe Biden et Donald Trump lors de cette dernière rencontre.
Que les gens ne veulent pas répondre à cette question. Je ne veux pas répondre à cette question. Pourquoi ne répondriez-vous pas à cette question?
L'un d'entre eux était à son premier mandat présidentiel. Donald Trump.
J'ai fait plus en 47 mois.
L'autre, un politicien de longue date, Joe Biden.
Les gens ont besoin d'aide.
Le match de 90 minutes a été marqué par le chaos et les interruptions.
Qui va la fermer, mec? Écoutez, qui est sur votre liste, Joe? Qui est sur votre liste?
C'est si peu présidentiel.
VOA a demandé aux électeurs ce qu'ils se rappelaient de ce débat.
Oh mon Dieu, c'était il y a longtemps.
Je me souviens que Trump était le meilleur débatteur.
Trump utilisait manifestement des astuces très enfantines, l'interrompant constamment, et Biden n'était pas du tout d'accord avec cela.
Le même théâtre politique est attendu jeudi. Chris Wallace, modérateur du débat 2020.
Monsieur, non, vous allez devoir arrêter.
Mais ce débat pourrait être tempéré en raison de nouvelles règles. Le microphone d'un candidat sera coupé lorsque ce n'est pas son tour de parler. L'électeur de Biden, Chet Edelman, apprécie l'idée.
Oui, j'aimerais qu'on en arrive par là. Mais vu le dernier débat, c'est une bonne politique, un bon protocole.
L'une des répliques les plus mémorables du débat de 2020 a été prononcée lorsqu'il a été demandé au président Trump de condamner les suprémacistes blancs. Les analystes disent qu'il a lancé une alerte. Donald Trump.
Des garçons fiers, mais fiers garçons, reculez et restez à l'écart.
On a demandé aux deux hommes s'ils accepteraient les résultats des élections cette année-là. Donald Trump.
Si les élections sont équitables, je suis d'accord à 100%. Mais si je vois des dizaines de milliers de bulletins de vote manipulés, je ne peux pas accepter cela.
Joe Biden, alors candidat à la présidence.
Je l'accepterai, et lui aussi. Vous savez pourquoi? Parce qu'une fois que le vainqueur sera déclaré, que tous les bulletins de vote auront été comptés, que toutes les votes auront été comptés, ce sera la fin de l'histoire.
Lorsque Trump a perdu l'élection, ses partisans ont pris d'assaut le Capitole le 6 janvier pour tenter de renverser le résultat. Les analystes prévoient que ce débat ne fera pas changer d'avis les électeurs qui ont déjà pris leur décision. Peter Lodge, directeur de l'école de médias et des affaires publiques de l'université George Washington.
Les partisans de Joe Biden ne tiendront pas compte de ces lapsus ou de ces inexactitudes, car Joe Biden est comme ça, il a toujours été comme ça. Et les partisans de Trump vont également dire que, eh bien, c'est juste Trump. Il s'exprime sur un coup de tête. Prenez-le au sérieux, pas au pied de la lettre.
Ben Cox, un électeur indécis, c'est ce qu'il veut voir jeudi.
Beaucoup plus d'amour, je pense, pour nous rassembler.
Un deuxième débat entre les candidats à la présidence est prévu en septembre, mais cela pourrait dépendre de la façon dont les choses se dérouleront jeudi.
Les 32 pays de l'OTAN ont nommé Mark Rutte comme prochain secrétaire général. Il succédera à Jens Stoltenberg le 1er octobre en pleine guerre en Ukraine. Son leadership est salué par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, tandis que la Russie reste critique. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions russes.
Je crois que, en fait,
Il va y avoir à Washington dans quelques mois le 75e anniversaire de l'OTAN. Et là, évidemment, les conditions seront posées en ce qui concerne l'Ukraine. La question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN va être posée. On sait qu'actuellement, les États-Unis ne sont pas très favorables à aller très vite dans ce domaine. Ils sont relativement réticents. Alors que d'autres États membres, dont la France, sont plutôt en faveur de l'accélération du processus. Donc, évidemment, Ruth devra naviguer, si je puis dire, entre ces deux positions. Ensuite, évidemment, la guerre en Ukraine est un défi important, mais peut-être moins qu'on veut bien le dire, parce que d'une part, les décisions importantes sur ce plan sont quand même prises à Washington, et d'autre part, l'aide est dispensée par les États membres individuellement. Donc, l'OTAN joue principalement le rôle de coordinateur, mais comme d'ailleurs ça a été rappelé à plusieurs reprises par Stoltenberg, ce n'est pas l'OTAN qui distribue directement de l'aide à l'Ukraine. Donc, en fait, le défi principal qui se présentera à M. Ruth, ce sera l'élection éventuelle en cas de victoire de Trump et sa position ambiguë vis-à-vis de l'OTAN et de l'article 5 de l'OTAN.
Et comment l'expérience de Mark Rutte en tant que Premier ministre néerlandais peut-elle influencer et améliorer son approche pour renforcer l'OTAN et les relations transatlantiques?
C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui a été aux affaires, comme on dit, qui a une expérience gouvernementale. C'est une des raisons d'ailleurs, puisque son expérience a été jugée positive non seulement par beaucoup de Néerlandais, mais en plus par d'autres États membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc il a un certain crédit pour ça, et je crois que c'est bon pour l'organisation qu'il va présider, c'est bon pour l'OTAN. Et c'est sûr que pendant longtemps, les Pays-Bas ont été quand même un élève exemplaire de l'OTAN. Et c'est bien d'avoir pour l'OTAN un vrai politique, un homme qui a une vraie expérience et qui a traversé aussi quelques épreuves. Donc pour l'OTAN, c'est un bon choix.
Et quelle différence notable pouvons-nous attendre entre le leadership de Mark Rutte et celui de son prédécesseur Jens Stoltenberg en termes de stratégie et de gestion des crises?
Écoutez, honnêtement, ça m'est très difficile de le dire. J'ai trouvé que Stoltenberg avait un grand sens de la diplomatie dans sa façon de gérer notamment la crise en Ukraine. Et je suis sûr que Ruth fera la même chose.
Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions russes.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Nord Cameroun fait face à une crise sécuritaire due aux enlèvements contre rançon impliquant divers acteurs transfrontaliers. Les ravisseurs ciblent agriculteurs, éleveurs et humanitaires, exploitant l'économie florissante et les frontières poreuses. Une coopération civile et militaire transfrontalière est-elle nécessaire pour contrer ce phénomène? Eric Manirakiza a posé la question à Maroua Célestin Delanga, chargé de recherche à l'Institut d'études de sécurité ISS.
Alors, le phénomène commence dans les années 1970. Et malgré les mesures gouvernementales qui vont du déploiement militaire à la création de comités de vigilance, la situation perdure et prend de l'ampleur à telle enseigne qu'entre 2015 et 2018, les rançons collectées ont atteint un montant estimé à 2 milliards de francs CFA. Les ravisseurs sont pour la plupart des éleveurs Peul, Bororo, Arabe Choua, parlant la langue Fulfuldéou arabe. Leur accent varie selon qu'ils soient des Camerounais, Tchadiens, Nigériens, Soudanais, Nigérians ou Centrafricains. Il y a aussi parmi eux des bandes armées camerounaises, des ex-rebelles et mercenaires centrafricains et tchadiens, sans oublier les éléments indélicats au sein des forces de défense et de sécurité camerounaises.
À quelle fin sont conduits les otages une fois enlevés au nord du Cameroun? Quel est le sort des otages une fois conduits au-delà des frontières et comment les autorités envisagent-elles de les protéger dans ces zones reculées et difficiles d'accès? Célestin, comment estimez-vous que les communautés locales pourraient être mieux sensibilisées et impliquées dans la prévention des enlèvements contre rançon, étant donné leur rôle souvent ambigu de complices dans la collecte d'informations pour les ravisseurs?
Les complices ne font pas le poids face aux populations meurtries par ces exactions. L'implication des communautés a justement pour vocation de les démasquer. Il y a donc lieu d'intensifier la création de comités locaux de vigilance, mobilisant les éleveurs et les chasseurs. Leur capacité en matière de renseignement et d'alerte précoce doit notamment être renforcée.
Comment les mesures proposées, telles que le renforcement des comités de vigilance et le contrôle systématique du flux de transhumance, pourraient-elles efficacement mettre un terme aux enlèvements contre rançon dans le nord du Cameroun? Quelles actions spécifiques doivent être prioritaires pour atteindre cet objectif?
Alors, les comités de vigilance ont ceci de particulier, qu'ils sont constitués des chasseurs et des bergers qui maîtrisent l'activité de transhumance et connaissent les coins et les recoins de la brousse. Ils connaissent beaucoup de choses et disposent de précieuses informations. Mais la lutte doit être multidimensionnelle. Elle doit impliquer la coopération militaire transnationale. Les compagnies de téléphonie mobile doivent aussi être impliquées, car elles peuvent fournir des services de géolocalisation.
Célestin Delanga, chargé de recherche, bureau de l'ISF pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad. Le phénomène du suicide est très répandu en Côte d'Ivoire, qui a le troisième taux de suicide le plus élevé en Afrique, avec 23 cas chaque année. Un sujet préoccupant mais qui reste tabou dans la société ivoirienne. Le reportage de notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenio.
Suspect 95 est un jeune artiste ivoirien qui a failli mettre fin à sa vie. Le décès prématuré de sa femme a eu un effet difficile pour sa santé mentale. Il s'est fait prendre en charge, sinon il ne serait plus de ce monde.
Dès que j'entends santé mentale quelque part, j'apparais. Parce que je suis conscient des dégâts, des problèmes, des préjudices que ça crée à notre jeunesse, que ça nous crée tous. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en Afrique que c'est tabou. Sur ce côté-là, vraiment, j'ai applaudi l'Occident parce que là-bas, c'est plus free quand même d'en parler. Notre problème ici, on ne s'explique pas. On ne parle pas, on ne se libère pas, on ne s'autorise pas à être vulnérable.
Et ce manque de communication a conduit beaucoup de jeunes Ivoiriens au suicide. Le pays a encore en mémoire la mort de l'étudiant Ibrahim Diagabaté, qui se serait donné la mort par pendaison. Des initiatives citoyennes ont dès lors été lancées, comme le Programme national de santé mentale, piloté par le ministère ivoirien de la Santé. Professeur Kouassé Mamedar, directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale.
Il faut parler de ces jeunes qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'attention, de prise en charge. C'est une vague, une mobilisation citoyenne, une mobilisation sociale au service d'une cause noble, parce qu'il s'agit de la vie, il s'agit de la santé, il s'agit du bien-être, il s'agit du développement des jeunes. Et pour nous, nous sommes satisfaits de la mobilisation historique des jeunes qui osent parler de ce qu'ils disent, qui osent parler de ce qui ne va pas bien. Pour nous, c'est un espoir historique.
D'autres initiatives ont également vu le jour, dont le Festival de musique urbaine d'Anomabo, consacré cette année à la santé mentale. Assel Faux, commissaire général du FEMUA.
On a vu des policiers se suicider. On a vu même des médecins se suicider. La Côte d'Ivoire est placée en troisième position du pays le plus suicidaire en Afrique. Ça ne va pas le pays, mais il faut le dire, ça va percer nos mentalités. Pour que le changement est capable du changement, il faut un changement comportemental pour que tout le monde puisse faire profiter, pardon, puisse profiter de sa jeunesse.
Selon le Programme national de la santé mentale, plus de 60 000 personnes souffrent de maladies mentales en Côte d'Ivoire. Pour prévenir cette maladie, les responsables du programme préconisent une hygiène de vie, une identification et une intervention précoce en cas de souffrance psychologique. Ange Bijou Nomeyan pour VOA Afrique, Abidjan.
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.